Mesdames et messieurs, à présent, nous vous proposons la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies avec Monsieur Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Merci JR, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, membres de la presse, bonjour et bienvenue à la conférence hebdomadaire des Nations Unies qui sera animée aujourd'hui à partir de Kinshasa par Florence Marshall, chargée de communication et coordinatrice du groupe de communication des Nations Unies, représentant les piliers de développement et humanitaire, et moi-même, Félix Prosper Bass. Bonjour Florence. Puis depuis Goma, nous aurons le commandant Jean-Marie Joseph Gonsalves, adjoint au chef de l'information publique militaire et porte-parole militaire par intérim. Je rappelle que mes collègues de l'équipe pays sont dans la salle et pourront répondre à vos éventuelles questions. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Il s'agit de Madame Djéné Keïta, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC, que nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous à cette conférence de presse. Bonjour Madame.
Bonjour.
La présence de Madame Keïta à nos côtés se justifie par la célébration ce samedi 11 juillet de la Journée mondiale de la population, et vous trouverez plus de détails sur cette journée dans le texte qui vous sera remis à l'issue de cette rencontre. Nous commençons par les activités de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Saïd Djinit, pour la région des Grands Lacs, qui effectue depuis le 5 juillet une visite de travail en République démocratique du Congo qui s'achèvera le 9 juillet 2015. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, PSCF, dans la région des Grands Lacs. À Kinshasa, première étape de sa visite, M. Saïd Djinit a rencontré les autorités gouvernementales, notamment le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, avec qui il a discuté la préparation d'une conférence sur l'investissement du secteur privé pour la région des Grands Lacs. Il a également eu des échanges avec les responsables du mécanisme national de suivi de l'accord cadre et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. En outre, M. Djinit s'est entretenu avec les responsables de la MONUSCO, des agences du système des Nations Unies et des membres du corps diplomatique des pays signataires de cet accord. Ce mercredi 8 juillet, l'envoyé spécial se rend à Kisangani en compagnie du représentant spécial adjoint M. David Gressly pour visiter le camp Général Baouma où sont hébergés les ex-combattants des FDLR. Un communiqué de presse conjoint vous sera distribué à la fin de cette conférence. Maintenant, sans tarder, nous démarrons les activités des composantes de la MONUSCO, section DD3R de la MONUSCO. L'opération de transfert des ex-combattants de Kota Koli à la base militaire de Kamina s'est achevée ce week-end. Au total, 1200 ex-combattants et leurs familles ont été transférés. Ceci vient en soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo que la section DDR de la MONUSCO s'est investie pour cette relocalisation. Et le coût total de cette opération s'élève à près de 2 millions de dollars. Une trentaine de vols ont été nécessaires pour transporter ces ex-combattants et leurs familles, ainsi que pour le transport de 63 tonnes de vivres, 400 kilos de médicaments et des tentes pour les loger. La fin de cette opération a aussi coïncidé avec le lancement officiel de la première phase de formation de ces ex-combattants avant leur réinsertion dans la société. Ils devront suivre pendant 3 mois le processus de démobilisation avant d'entamer d'autres modules de formation, notamment sur la culture de la paix, les droits humains, le civisme, la valeur de la vie civile et l'alphabétisation, mais aussi sur l'apprentissage dans les différents corps de métier, notamment la menuiserie, la plomberie, etc. Activité de la section appui à la justice de la MONUSCO. Un atelier a été organisé ce mardi 7 juillet à Goma par la division provinciale de la justice du Nord Kivu, avec le soutien de la section appui à la justice de la MONUSCO en faveur des autorités civiles et militaires du Nord et du Sud Kivu. Cet atelier, qui se poursuit aujourd'hui à Goma, a pour objectif d'outiller les autorités pénitentiaires sur la gestion des incidents en milieu carcéral. Police MONUSCO. Dans le cadre de la sécurisation du processus électoral, la police MONUSCO a animé le 6 juillet 2015 une séance de renforcement des capacités au profit de 18 agents et cadres de la police nationale congolaise, PNC de Dungu. Ces policiers congolais ont été entretenus sur la psychologie des foules. Maintenant, nous passons la parole à Florence Marshall, qui évoquera avec nous les activités de l'équipe pays qui, pour cette semaine, je pense, tourne autour du lancement de la campagne de la Cour pénale internationale placée sur le thème « La justice, une affaire de tous », mais aussi sur la situation humanitaire qui prévaut dans la région de Béni du fait de l'insécurité persistante causée par les groupes armés à la base des déplacements de populations civiles. Florence, la parole est à vous.
Merci Félix, bonjour à tous. En effet, je commence avec la Cour pénale internationale. Justice Matters en anglais, la justice une affaire de tous en français. C'est le titre de la campagne menée actuellement dans les médias sociaux par la Cour pénale internationale, la CPI. Jusqu'au 17 juillet, journée de la justice pénale internationale, la Cour vous invite à soutenir cette campagne en réalisant des selfies ainsi que de courtes vidéos, puis de poster le tout sur la page Facebook créée pour l'occasion, sans oublier d'inscrire un mot ou une phrase décrivant pourquoi la justice compte pour vous. La CPI est la première Cour pénale internationale permanente créée pour juger des individus pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un communiqué de presse précisant tous les détails de la campagne sera distribué à la fin de cette conférence. Comme promis la semaine dernière, je souhaite revenir sur la situation humanitaire dans la région de Béni avec des informations qui ont été fournies par OCHA. La localité de Maïmboya, située à plus de 50 km au nord de la ville de Béni, s'est jointe à la longue liste des villes du Nord Kivu qui font les frais de l'insécurité persistante dans la province. Le 26 juin, près de 13 000 personnes se seraient déplacées vers Eringeti, Komanda, Samboko et Oicha suite à une attaque d'hommes armés. Parmi les habitants de Maïmboya se trouvaient plus de 1300 ménages déplacés qui avaient fui les localités environnantes entre avril et mai dernier. Par ailleurs, depuis le mois d'avril, plus de 45 000 personnes se sont déplacées en raison d'attaques dans la partie nord du territoire de Béni. Des évaluations sont en cours pour planifier l'assistance humanitaire à apporter à ces populations vulnérables. Quant aux 13 000 déplacés qui avaient trouvé refuge dans la ville de Béni en avril et mai dernier, une partie d'entre eux a commencé à recevoir l'assistance humanitaire alors que d'autres ont entamé leur retour. Malgré ce climat délétère, les acteurs humanitaires continuent à apporter l'aide nécessaire aux familles et personnes déplacées. Les collègues d'OCHA sont dans la salle et pourront vous apporter des informations complémentaires si nécessaire. Voilà, merci.
Merci Florence. Donc direction Goma pour rencontrer le commandant Gonçalves qui nous fera un survol de la situation sécuritaire dans toute la RDC. À vous, Major Goma.
Merci Félix. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'Ouest de la République démocratique du Congo est demeuré calme durant la semaine écoulée. En province orientale, les troupes onusiennes et congolaises maintiennent la pression militaire contre les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans les districts de Haut et de Bawili. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, soutenues par la force de la MONUSCO, poursuivent sans relâche leur opération contre les éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, auteurs de nouvelles actions contre les populations civiles. Dans la nuit du 3 juillet 2015, des miliciens du FRPI ont attaqué plusieurs villages situés au sud du territoire d'Irumu, Bavi, Koni, Banoko, Mbodina et Niyabiri, tué à l'arme blanche une femme, violé deux autres et pillé plusieurs biens de valeur. Les FRDC, soutenus par la force de la MONUSCO, mènent des opérations de bouclage et de ratissage visant à neutraliser les miliciens du FRPI dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Au nord Kivu, dans le territoire de Béni, hormis quelques incidents liés au banditisme rapportés durant la semaine écoulée, la situation sécuritaire est demeurée relativement calme. Dans le territoire de Butembo, plusieurs activités négatives menées par les groupes armés ont été rapportées pendant la période sous examen. En effet, le 28 juin 2015, des éléments du groupe Mai Mai Simba, aux ordres du colonel Manu, ont attaqué la zone minière de Lubumbashi, située à environ 150 km à l'ouest de Butembo Centre. Trois d'entre eux ont été tués au cours de la riposte menée par des unités de FRDC basées au sous-secteur de Lubero. Dans le territoire de Walikale, les actions perpétrées contre les populations civiles par des éléments du groupe Mai Mai Ndumba à défense du Congo NDC, faction Guidon, ont été rapportées pendant la période sous examen. Le 5 juin 2015, les FRDC ont mené des opérations vigoureuses visant à déloger les éléments du groupe Mai Mai NDC, faction Guidon, basé dans la localité de Nkanga, située à 28 km au sud-ouest de Pinga. Ces accrochages ont provoqué le déplacement des populations civiles vers les villages avoisinants. dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, les forces armées démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, poursuivent les actions contre les populations civiles et mènent des attaques sporadiques contre les forces de défense et de sécurité congolaises. Les troupes des FARDC engagées dans l'opération scolaire 2 et nettoyage 2 mènent des offensives visant à la neutralisation des rebelles de FDLR dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Au chapitre des redditions dans la province, du 1er juillet à ce jour, 15 éléments en provenance des groupes armés se sont rendus au casque bleu déployé dans la province. Il s'agit de 8 des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, 1 du groupe Mai Mai de l'Union des patriotes congolais pour la paix, UPCP, 2 du groupe Mai Mai Raya Mutomboki, faction Ntoso, 1 du groupe Mai Mai Ndumba, défense du Congo, Guidon, et 3 du groupe Mai Mai Sheikha Ndumba, défense du Congo, NDC. Au sud Kivu, les forces onusiennes et congolaises maintiennent sous leur contrôle l'environnement sécuritaire dans les différents territoires de cette province, en dépit de l'activisme de quelques groupes armés, notamment les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Au Katanga, une accalmie relative a été observée pendant la période sous examen. Le climat sécuritaire dans le secteur 2 est demeuré calme durant la semaine écoulée. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1321 patrouilles armées, dont 429 nertines, et fourni 75 escorts pendant la période sous examen. Merci Félix.
Merci Major pour ce survol de la situation sécuritaire. Retour ici à Kinshasa. Et comme nous vous l'annoncions au début de cette conférence de presse, nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège de recevoir Mme Jenny Keta, qui est représentante du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC, qui vient nous entretenir de l'organisation, de la célébration de cette journée dédiée aux populations, mais aussi des activités y afférentes qui permettront de sensibiliser davantage aux questions de population, notamment les relations des populations avec l'environnement et le développement. Madame, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à notre conférence de presse. Vous avez la parole.
Merci. Bonjour à tous, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes. Je suis heureuse d'être là ce matin, au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, pour vous entretenir de la Journée mondiale. La Journée mondiale est née lors de la célébration de cela des 5 milliards de populations en 1987. Et depuis, elle a été tenue tous les ans à la même date. Et l'année dernière, la thématique, c'était « Investir dans les jeunes ». Et vous le savez très certainement que le 31 octobre 2011, nous avons atteint les 7 milliards de population. Et à ce jour où je vous parle, nous devons être environ à 7 milliards 250 000. Ceci est important parce que, vous savez, les questions de population, toutes les agences du système des Nations Unies travaillent, quoi que soit notre travail, c'est autour de la population. Donc, pour cela, cette année, la thématique, ce sont les populations vulnérables en situation d'urgence. Il y a les urgences que nous connaissons tous, qui se situent en cas humanitaire en général, et l'équipe pays a formulé avec ses partenaires un programme, un plan humanitaire 2015, qui est absolument complet et qui aborde tous les sujets sur la question. J'aimerais peut-être focaliser juste sur le point 3, qui est le renforcement de la capacité des populations à avoir une bonne résilience dans les cas difficiles, dans les cas de situations humanitaires, dans les cas de populations déplacées, dans les cas de catastrophes naturelles, etc. Je crois que la résilience est vraiment la chose la plus importante pour ces populations. Mais comment l'obtient-on? Comment y arrive-t-on? Ça, c'est la véritable question. Et lors des journées de population ou toute autre journée des Nations Unies, on doit nous assurer que les actions que nous prenons au niveau du pays tendent vers cela. Quand on parle d'urgence également, elles ne sont pas toutes humanitaires. Certaines sont sociales. Et sociales, vous en entendez souvent parler, on parle souvent en RDC de questions de violences basées sur le genre. Et quand on en parle, on parle surtout des violences en zone de conflit, des violences sexuelles. Mais il s'avère que les violences ne se limitent pas seulement à celles-là. Elles se passent en monde non humanitaire également. Et ce sont celles-là aussi qui sont des urgences sociales, qui sont dues en fait du fait de la pauvreté. C'est la pauvreté qui amène ces violences-là, les grossesses précoces et les traditions et les pratiques néfastes dans les cultures. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, le gouvernement, les partenaires, qu'on appelle généralement les donateurs, le système des Nations Unies, et une catégorie pour laquelle j'aimerais saluer ici à cette occasion, c'est la société civile. La société civile, aussi bien nationale qu'internationale, c'est tout le travail qu'elle fait en faveur des populations en essayant d'améliorer leurs conditions de vie. Je crois que c'est important de le signaler à cette date-là. Surtout parce que, vous savez, il y a dans ce pays 846 000 femmes qui meurent en essayant de donner la vie pour 100 000 naissances vivantes. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc toute action en faveur des populations est toujours intéressante. Et cette population-là, ça doit être l'action envers les femmes et les jeunes femmes en priorité. Et dans la question des violences, pour rester là-dessus, il y a, comme on l'appelle, il faut savoir combien et là où ça se passe et comment. Et je vais vous donner juste un chiffre par rapport à cela. Il a été estimé en 2010 qu'il y a environ 40 000 cas de fistules par an en RDC. Et seulement 1% de ces 40 000 cas concernent des faits de violence, du fait de conflit. Je crois que ce sont des chiffres qui sont bien à retenir. Quand on sort de cette violence et des urgences sociales, nous avons aussi ce qu'on appelle le dividende démographique. On en parle beaucoup et peu savent ce que ça veut dire. Et dans le cadre de la journée des populations et des situations d'urgence, je vais vous expliquer un peu ce qu'on entend par ça. Nous avons des jeunes en recherche d'emploi. Ça, vous savez tous ce que c'est. Mais il y a l'autre partie, il n'y a pas que les jeunes. Nous avons aussi les vieux qui doivent quitter la fonction publique parce qu'ils sont en âge de retraite, mais il n'y a pas de système mis en place pour eux. Alors, que fait-on de la population? Les jeunes qui doivent aller commencer à travailler et ceux qui doivent sortir et pour faire autre chose, mais qui sont peut-être encore valides. C'est ce qu'on appelle le double dividende démographique, pour savoir comment le pays prend en compte ces populations-là pour qu'elles puissent servir la nation et aussi servir le bien-être des populations dans leur ensemble, dans leur globalité. Le dernier point, peut-être, que j'aimerais mentionner aussi, enfin l'avant-dernier, c'est le recensement général de la population et de l'habitat. C'est ce qu'on appelle une urgence stratégique. Vous savez que dans ce pays, il n'y a pas eu de recensement depuis 30 ans, un peu plus maintenant. Et si nous voulons que ce qui est urgence aujourd'hui ne soit pas urgence demain, il faut commencer à compter les gens aujourd'hui. Il faut s'assurer que les enfants, quand ils naissent, on sache où ils sont, on sache qu'ils sont enregistrés et qu'il y ait des écoles dans ces endroits-là pour pouvoir s'en occuper. Ça, c'est ce qu'on appelle l'urgence stratégique. L'urgence politique, contrairement à mes amis de la MONUSCO, pour moi, l'urgence politique, ce sont les conférences qui arrivent dans les quelques jours à venir, les quelques semaines à venir, comme la conférence globale sur le financement qui va y avoir lieu à Addis Abeba la semaine prochaine. Vous le savez certainement que la République démocratique du Congo est l'un des 4 pays qui peuvent prétendre au financement pour les questions de santé et de bien-être. Et ça, c'est une urgence très stratégique et très politique pour moi. Et je pense que la RDC est extrêmement bien préparée pour ça, puisqu'ils sont exactement en élaboration maintenant du plan national de développement sanitaire, en même temps que du plan de réduction de la pauvreté. Cela prouve qu'il y a une dynamique dans le pays, et il y a surtout une réflexion stratégique pour ce qui concerne les intérêts des populations et des jeunes. Maintenant, je terminerai sur ce point-ci. Que pouvons-nous faire tous en faveur des populations? Vous, la presse? Nous travaillons dessus tous les jours. Ce que je voudrais vous demander à la communauté que vous êtes, c'est de vous assurer de reporter correctement les informations sur les populations. Et que si on doit faire des jeux de mots, qu'on le fasse envers ceux qui s'en occupent, Nations Unies, gouvernement, mais certainement pas au détriment des bénéficiaires, les populations elles-mêmes. Parce que ça retarde les processus et ça ne permet pas surtout de voir les avancées. Des avancées qu'on fait vis-à-vis des populations. Nous avons tous un rôle, c'est celui d'éduquer. C'est celui d'éduquer. Nous sommes des privilégiés d'être là où nous sommes et véritablement, j'ai une chance extraordinaire devant vous tous aujourd'hui. Je reste à votre disposition pour que nous puissions préparer cette journée que nous allons célébrer, qui aura lieu le 11 samedi, avec des activités dans les différentes communes, aussi bien à Goma, avec mon équipe qui est là-bas, qu'à Lubumbashi, mais également dans la région de Kinshasa. Mais vendredi, il y aura la cérémonie officielle, formelle, comme l'on dit, avec les tests officiels qui seront présentés dans le pays sous la tutelle du gouvernement. Je vous remercie.
Merci, Madame Djéné Kéta, pour ce résumé exhaustif relatif à la Journée mondiale de la population qui sera célébrée le 11 juillet 2015 ici à Kinshasa. Et je pense aussi que les collègues de la presse ont retenu ou en tout cas se sont appropriés l'interpellation que vous venez de faire concernant justement la contribution de tout un chacun dans le cadre de cette journée, et aussi que la presse est vivement invité à cette manifestation-là. Maintenant, nous entrons tout de suite...